Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le Grand Débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 01 55 07 58 00 depuis la France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude sur notre page Facebook, facebook.com/legranddebat.
Africa numéro 1, le Grand Débat, Francis Laloupo.
Dans le grand débat aujourd'hui, situation pré-insurrectionnelle au Togo. Alors que se prolonge le bras de fer engagé depuis 2 mois entre le pouvoir et l'opposition, difficile d'imaginer aujourd'hui les voies de sortie de crise, tant les positions des deux parties concernées paraissent inconciliables. Désormais, le retour à la constitution de 1992 ainsi que le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir sont devenus les deux principaux motifs de la fronde contestataire. Alors que le pouvoir misait sur l'essoufflement de ce mouvement, une coalition de 14 formations politiques de l'opposition en appelle à de nouvelles marches les 4 et 5 octobre au Togo, mais aussi au sein des communautés togolaises résidant à l'étranger. La manifestation du 5 octobre est présentée d'ailleurs comme celle, je cite, d'un ultime avertissement au pouvoir. Une question s'installe au cœur du débat politique dans ce pays. L'alternance au sommet de l'État est-elle devenue inéluctable face à une vague de contestation d'une ampleur inédite au Togo? Réponse dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio.
Africa numéro 1, le grand débat.
Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/legranddebat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Lomé, à Dakar, à Lubumbashi, à Cotonou, à Édimbourg, à Montréal, à Cotonou ou encore à Douala. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Paikoun Koubia Jallo, Mustapha Abdou Kampari, Romy C. Romeo, Owani Patriciaki, Adi Silla, Aiseta Baradji et Nikez Bakala qui ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Merci à vous d'être là et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi.
Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le Grand Débat sur Africa numéro 1.
Marche de la colère, ultime avertissement. Ainsi sont présentées les nouvelles manifestations prévues cette semaine au Togo. De quelle marge de manœuvre dispose désormais le pouvoir togolais pour espérer infléchir cette vague contestataire inédite dans l'histoire politique du pays? C'est la question au cœur de ce grand débat. Analyse et perspective avec nos invités. Godwin Tété est avec nous. Bonsoir Godwin Tété.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on est toujours très honoré de vous recevoir dans le grand débat. Vous êtes celui qu'on appelle le doyen, notre doyen à tous. Vous êtes historien, ancien haut fonctionnaire de l'ONU, membre de l'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement, parti de l'opposition au Togo, ancien membre du Haut Conseil de la République togolaise de 91 à 92. Ouais. C'est donc au début, je dirais, c'était l'époque de l'espérance démocratique dans votre pays.
Absolument.
C'est ça. Mmh. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, bien sûr, dont le dernier paru le mois dernier, en septembre 2017, Quelques pans cruciaux de l'histoire contemporaine du Togo aux éditions L'Harmattan. Godwin Tété, merci d'être avec nous. Karl Gaba est avec nous. Bonsoir, Karl.
Bonsoir.
Karl Gaba, vous êtes fondateur du site letogolais.com. Vous êtes membre de Synergie Togo, organisation, il faut le dire, de la société civile.
Absolument.
Merci beaucoup.
Et en complément, je coordonne depuis le 19 août un mouvement qui s'appelle Togo Debout au niveau de l'Europe.
Ah, c'est vrai, Togo Debout.
Togo Debout.
On a vu évidemment l'iconographie de Togo Debout partout sur les réseaux sociaux.
Voilà, et on marche
avec le poing levé.
Voilà, et on marche pour la liberté au Togo. Et on a justement une manifestation le 7 octobre à Paris, une marche de Bastille à République où on invite toute la diaspora togolaise en Europe qui va nous rejoindre pour effectivement intensifier la manifestation et mettre pression sur ce pouvoir dictatorial qui ne veut pas céder à la volonté du peuple.
On en parlera au cours de cette émission, certainement. Vous faites bien donc de préciser cet agenda. Au téléphone avec nous depuis Dakar, Mathias Rompin, politologue, administrateur de OSIWA. Mathias Rompin, bonsoir.
Bonsoir.
Attention, mon père. Alors, on va commencer avec vous, justement, vous qui observez la situation au Togo. Mais avant de vous poser ma question, je dois préciser que dans une demi-heure, nous allons accueillir dans ce grand débat Christophe Tchao, député de l'Assemblée nationale du Togo, président du groupe parlementaire de l'Union pour la République Unir, c'est le parti présidentiel au Togo. Il nous rejoindra au cours de l'émission, à peu près dans une demi-heure, m'a-t-on dit. Il est un peu en retard dans son... dans son programme de la journée. Mathias Ompé, donc, vous qui observez la situation au Togo, comment vous qualifierez aujourd'hui le conflit qui a cours au Togo? Quel est son degré d'intensité?
Disons que pour ce que nous voyons, que ce soit dans les médias, je dirais classiques, télévision, et surtout sur les réseaux sociaux, je pense que l'intensité est quand même spécifique. Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir au Togo, je dirais ces dernières années.
C'est ça.
Et quand je parle d'intensité, je parle du nombre de personnes qu'on voit dans les rues, dans un premier temps, et la couverture, je dirais, quasi nationale des mouvements. Et donc, pour nous, c'est quand même quelque chose de particulier lorsqu'on consulte l'histoire politique du Togo.
Maintenant, si vous pouvez rester avec nous, Godwin Tété, alors, vous avez connu plusieurs épisodes de crise et de tension au Togo au cours des 30 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans ce qui se produit, dans ce qui se déroule actuellement, depuis 2 mois en tout cas, dans votre pays?
D'abord, je souhaite remercier Africa, la Radio Africa numéro 1, pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes togolais, à la cause du peuple togolais, et remercier en particulier notre frère Francis Laloupo, qui incarne cette radio. Eh bien, vous avez bien posé la question. Ce qui nous paraît, nous autres combattants togolais de la liberté, ce qui nous paraît inédit, c'est que pour une fois, c'est quasiment la totalité du peuple togolais qui s'est soulevé pour dire « ça suffit ». L'immortel Mahatma Gandhi, le père de l'Inde moderne, a dit qu'à l'instant même où l'esclave décide qu'il ne va plus être esclave, qu'il ne veut plus être esclave, ses chaînes tombent. Eh bien, nous avons l'impression que le peuple togolais est en train de dire à qui veut l'entendre qu'il ne veut plus être esclave. Voilà ce qui, à mon humble avis, me paraît être l'élément nouveau, l'élément crucial, n'est-ce pas, l'élément fondamental, l'élément premier dans la situation que nous sommes en train de vivre.
Depuis 90, on a vu plusieurs soulèvements populaires, des manifestations, des marches de protestation, des contestations post-électorales qui parfois ont dégénéré. À chaque fois, le pouvoir togolais a répondu par une forte répression. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, je dirais, empêcher le pouvoir d'opposer la même réponse que celle qu'elle a toujours opposée au mouvement de contestation dans votre pays, Godwin Tété?
Non, je ne vois rien qui puisse l'empêcher. Il peut toujours essayer. Et puis, il verra bien ce qui va se passer. Et puis, le monde change. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas dans le monde certaines choses comme...
Ça se faisait à huis clos, vous voulez dire?
Oui, absolument. Aujourd'hui, avec, vous appelez ça, moi je ne m'y connais pas du tout.
Les réseaux sociaux.
Mes propres fils y connaissent mieux que moi. Les réseaux sociaux, les WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Hein, ceux qui ont fait sous le lit, c'est connu dans le monde entier automatiquement. Donc, ils doivent aussi regarder à deux fois près la situation avant d'utiliser les mêmes méthodes qu'on a utilisées dans les années 90 et consorts.
Karl Gaba, à la mi-septembre, il y a eu donc la séquence de l'adoption du projet de loi sur la modification de la Constitution, une séquence qui avait été boycottée donc par l'opposition, il faut le préciser. Est-ce qu'il est encore possible pour l'opposition de passer des marches de protestation qu'on observe actuellement à une forme de dialogue avec le pouvoir?
Au Togo, on a eu une trentaine de dialogues depuis l'avènement de cette dictature de père en fils qui perdure depuis 50 ans.
C'est ça.
La communauté internationale a toujours invité l'opposition à battre sa coulpe, de venir au dialogue. Et nous avons toujours répondu présent à ces dialogues-là et nous avons toujours pu trouver des accords et des recommandations sont systématiquement faites au cours de ces dialogues.
C'est ça.
Depuis 50 ans, ce pouvoir n'a respecté aucune des recommandations. Et à la date d'aujourd'hui, on nous demande de recommencer encore à nouveau à dialoguer avec un système qui nous met un fusil sur la tempe. Et à la fois, on signe des accords politiques et ils refusent de la respecter. Le dernier en date est l'accord politique global qui a été signé en 2006 sous la contrainte de la communauté internationale, alors que Fonia Singbe venait de commettre un crime en assassinant presque 1000 Togolais, mais l'ONU en reconnaît 1000. On nous met à la table de négociation. Nous signons un accord de paix, nous signons un accord politique, et cela fait 11 ans qu'aucune ligne de cet accord politique n'a été respectée par Fonia Singbe. Est-ce que vous trouvez normal qu'à nouveau on nous propose de venir dialoguer avec Fonia Singbe qui, sous la contrainte des marches qu'on est en train de faire depuis plus de 10 ans, hein, a fini par reconnaître là, vu l'intensité de la marche, vu le Togo qui s'est levé, vu le nombre, vu effectivement les réseaux sociaux qui ont permis de montrer la nature de ce régime qui est un régime dictatorial, nous propose, ou sous le conseil de certaines institutions, nous propose à nouveau de dialoguer. Mais dialoguer de quoi ?
Dialoguer de quoi ? J'aime bien la question qu'on se pose. Hein, d'ailleurs, Gonuit, était l'un de vos nombreux articles publiés récemment est intitulé, je cite le titre, hein, on y reviendra tout à l'heure, hein, j'en citerai un extrait plus tard, un autre dialogue inter-togolais serait sûrement une autre tromperie du peuple togolais. Une citation du titre. Alors, désormais, dans Karl Gaba, c'est vrai que c'est le départ du président Fonia Singbe qui est réclamé aujourd'hui dans la rue. Hein. Voilà, on a atteint, je dirais, la revendication maximale. Comment l'opposition pense-t-elle pouvoir négocier une telle revendication uniquement par des manifestations ?
Non, aujourd'hui, Fonia Singbe est contraint. Il réclame un dialogue parce qu'il est contraint les deux.
Le pouvoir vous oppose un référendum qui devrait avoir lieu d'ici la fin, la fin de l'année.
Le référendum au Togo, on a déjà fait un référendum en 1992 qui a été adopté à plus de 90% par le peuple togolais. Ce référendum est vraiment un plébiscite et qui installe effectivement une démocratie ou qui a pour ambition d'installer une démocratie au Togo. La famille de Fonia Singbe, ou disons-le précisément, le système dictatorial au pays, au Togo, a totalement manipulé, instrumentalisé et enlevé tout l'esprit de cette constitution en voulant nous imposer une monarchie héréditaire de père en fils. Nous disons non, que nous avons déjà une constitution qui a été votée par les Togolais et ce que nous réclamons, et c'est ça vraiment le soulèvement actuel depuis le 19 août, c'est de réclamer effectivement le retour de cette constitutionnelle, de cette constitution, le vote de la diaspora, mais puisque Fort ne nous entend pas. Et vous vous rendez compte, cela fait plus d'un mois.
L'opposition vous dit, voilà, vos rétorques. Bon, pour l'instant, il est en place, il y a un mandat en cours, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Et pourtant, ce qu'on entend dans la rue aujourd'hui, c'est un départ immédiat du président. Est-ce que ça, c'est négociable ?
Mais c'est pas négociable dans la mesure où c'est le peuple qui est dans la rue. Ils sont plus de 1 million et la diaspora, on est presque 1,5 million avec Togo debout. Qui avons dit à Fonia Singbe, nous voulons la constitution de 92, nous voulons le vote de la diaspora. Mais puisqu'il ne nous entend pas, monsieur Laloupo, est-ce que vous avez entendu monsieur Fort ? Est-ce que vous l'avez entendu parler, ou même dans l'histoire du Togo depuis 10 ans ? Est-ce que vous avez mémoire d'intervention de Port Fort ?
Il parle assez peu, oui.
Il parle assez peu.
C'est un président taiseux.
Voilà, il ne parle pas du tout. Donc pour nous, il se pose un problème. Il y a un mois, on lui explique, le peuple lui explique de ce. Exige de sa part l'une des solutions qui pourra sortir le Togo de la crise et de nous inviter effectivement une situation chaotique qui est l'application, la mise en place et la réintroduction de la constitution de 92 et en même temps le vote du diaspora. Et à partir de là, il ne nous écoute pas.
Alors, lui ne parle pas, mais c'est le lieutenant parle pour lui. J'espère d'ailleurs qu'on pourra accueillir tout à l'heure Christophe Tchao, président du groupe parlementaire de l'Union pour la République sur le parti présidentiel à l'Assemblée nationale du Togo. Restez avec nous. Je vais poser la question à Mathias Rompé, notre invité politologue. Hein, Mathias Rompé, là, on voit voilà, une revendication, je dirais, maximaliste. Hein, le départ immédiat d'un chef d'État donc en cours de mandat. On parle désormais d'un ultime avertissement au président de la République à travers des manifestations. Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une situation pré-insurrectionnelle ou pas ?
Bon, je crois que personne ne souhaite que les populations, n'est-ce pas, des pays, surtout des pays de notre région, aillent dans des situations insurrectionnelles.
On a vu ça au Burkina Faso, hein. C'était une insurrection.
On a vu ça au Burkina. Mais comme vous le savez, au Burkina, personne ne l'a souhaité, ça s'impose.
C'est ça.
Lorsque vous atteignez ce niveau, ça s'impose à tout le monde. Mmh. Et personne, je vais mettre en griffe, ne maîtrise la suite des événements.
Est-ce que les ingrédients sont réunis aujourd'hui au Togo
Non, absolument. Oui. Lorsque vous voyez l'intensité des manifestations qu'on a vues, je pense que si cette foule, cette masse de personnes décide, n'est-ce pas, de ne plus rester pacifique, comme oui. on l'a observé jusque-là, mmh. je ne vois pas qui pourrait l'arrêter. Et donc, de ce point de vue, de mon point de vue, depuis les premières manifestations, le Togo, de mon point de vue, joue chaque fois avec à la limite. De ce qui est tenable. Voilà. Mmh. Donc, on peut toujours arriver à cela. Mais moi, ce que je suggérerais, bien que je comprenne très bien la position de M. Tété et de M. Gava mmh. par rapport au fait que des accords ont été déjà signés par le passé qui n'ont pas été respectés, mmh. moi je suggérerais que toutes les options demeurent disponibles. Mmh. Et que, comme je crois l'a dit M. Gava, la situation a évolué. Je crois que l'environnement évolue et ne serait-ce que l'intensité de ces mouvements nous montre que mmh. la situation n'est plus la même qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, s'il est possible de se retrouver autour d'une table mmh. et de s'entendre avec des critères beaucoup plus crédibles sur des voies de sortie de crise, mmh. moi je suggérerais que ces options demeurent disponibles jusqu'à ce qu'on se rende compte que les propositions qui sont faites ne sont pas crédibles.
Il faut que toutes les options restent disponibles, dites-vous, Mathias Fompé. On écoutera la réponse de Gomine Tété de Kalgaba après la publicité. Et puis, c'est vrai que les options, oui, mais la parole du président aussi est peut-être aussi demandée par l'opposition, parce qu'un président muet, évidemment, face à une telle fronde contestataire, c'est un peu étrange. Il faudra peut-être qu'on apprenne à interpréter les silences du président togolais. Restez avec nous, à tout de suite.
Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Une situation pré-insurrectionnelle au Togo, peut-être avec un point d'interrogation. En tout cas, nous essayons de comprendre la situation en cours dans ce pays avec nos invités, Godwin Tété, historien, membre de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, c'est l'opposition, Karl Gaba, fondateur du site Le Togolais, membre du Synergie Togo, organisation de la société civile. Il est également le fondateur de Togo Debout, donc une plateforme, je dirais, peut-être de contestation.
Hein, voilà.
Et Mathias Rompet est avec nous au téléphone depuis Dakar, politologue, administrateur de Osiwa. Et dans quelques instants, j'espère que nous pourrons joindre à Lomé, Christophe Tchao, député, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle Union pour la République. Godwin Tété, alors je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est vrai que la configuration de la contestation a quand même beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. C'est une nouvelle génération aujourd'hui qui manifeste à côté des plus anciens, je dirais. Hein. Voilà, on a vu l'émergence de ce nouveau parti politique, le Parti National Panafricain, et puis beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément encartés, si je puis dire, qui aujourd'hui manifestent et défilent. Est-ce qu'on assiste à une forme de radicalisation des mouvements de protestation au Togo aujourd'hui?
Monsieur Francis Laloupo, ça dépend de... du sens réel qu'on donne à ce mot radicalisation.
C'est ça.
Parce que c'est une tendance aussi des gouvernants actuels. Ils sont trop radicaux. Ils sont ceci.
C'est ça.
Mais qu'est-ce que... Quand je dis que je souhaite que... Je pense que mon pays tel qu'il est gouverné n'est pas la manière dont mon pays est gouverné n'est pas correcte et qu'il faut... Alors on va dire que je suis radical. Si c'est ça le radicalisme... Non,
il y a peut-être des jeunes qui ne sont pas, je dirais, dans les arrangements politiciens classiques
oui.
et qui n'ont peut-être qui aujourd'hui veulent, pas grand-chose à perdre.
C'est ça.
Et qui avaient
et
peut-être
qui
10 ans quand Faye Assimi est arrivé au pouvoir.
À bousculer leurs aînés si ceux-ci, n'est-ce pas, veulent continuer à jouer des petits jeux que nous.
Ce
nous,
qu'on a reproché parfois à une certaine opposition togolaise, hein,
mais oui,
d'être parfois un peu, je dirais, dans la conciliation.
C'est ça.
Et dans des conciliations d'ailleurs parfois coupables.
Oui. Non. Les jeunes veulent qu'on se donne une stratégie claire et nette, n'est-ce pas, capable de nous permettre de sortir de ce bourbier.
Mais ce que veulent ces jeunes très clairement aujourd'hui, c'est de tourner la page des années Yassimbé.
Absolument.
C'est ça.
Absolument. Et ceci du sud au nord, de l'est à l'ouest. Pendant longtemps, on a essayé de diviser le pays en deux, le sud, le nord, et ceci et cela. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Mmh. Et on a des fois même c'est plus radical au nord qu'au sud. Mmh. Et voilà une des nouveautés aussi, n'est-ce pas, de la situation actuelle.
Karl Gabba, est-ce qu'un parti comme le Parti national panafricain, qui a déclenché la fronde contestataire en août dernier, n'est pas venu en quelque sorte, je dirais, apporter à la population togolaise, à une population qui en a manifestement ras-le-bol, hein, des réponses que n'apportaient plus les partis traditionnels comme l'ANC. Hein. Je dis ça avec, évidemment, beaucoup avec mes excuses à Godwin Tété, qui est membre de l'ANC, mais tous ces partis traditionnels sont un peu essoufflés. Est-ce que ce vide laissé aujourd'hui n'est pas comblé, je dirais, par des mouvements qui pourraient même devenir incontrôlables?
Je pense que ces mouvements, partis traditionnels, n'étaient pas essoufflés, mais ils sont tombés dans le piège du régime qui dictait un tout petit peu la marche à suivre. D'aucuns ont participé à des élections qu'on sait au Togo sont truquées par le régime. D'autres, effectivement, sont rentrés dans des organisations où ont signé des accords politiques avec le pouvoir. Bon, je parle du cas de Gilchrist Olympio, oui. mais on sait très bien que ces accords-là sont totalement désavoués par le peuple togolais. Effectivement, cette opposition-là est rentrée dans le piège qui a été tendu par le régime.
Oui.
Hein, donc ils se sont enfermés effectivement dans une espèce de nomenclatura de la dictature togolaise qui entretenait effectivement stratégiquement.
Ils se sont décrédibilisés également.
Ils n'étaient pas décrédibilisés, oui. mais ils ont été pris dans un piège.
Oui.
Et ce piège-là a été dénoué par Tipi Achadam qui a compris.
Le Parti national panafricain, donc
le Parti national panafricain, qui a compris qu'il ne faut pas jouer le jeu du pouvoir. On demande des autorisations.
Qui a compris qu'il fallait écrire une nouvelle histoire, une autre histoire du Togo, non ?
C'est dans la continuité. Ce n'est pas une nouvelle histoire, mais c'est dans la continuité, dans l'esprit même du combat pour la libération au Togo, du combat.
Je vous pose la question parce que est-ce que tous les partis de l'opposition aujourd'hui sont unanimes sur la conduite à tenir face au pouvoir ?
Maintenant, ils sont unanimes, puisque Tipi Achadam.
Godwin Tété est un peu perplexe. Hein.
Oh non, je ne suis pas perplexe. au contraire, j'allais insister sur la nécessité, n'est-ce pas, d'un leadership, je dirais, homogène.
Oui.
Hein, d'un leadership unipolaire, hein, parce que si jamais il y a division, nous sommes foutus. Mmh. Il faut d'autres choses, à mon avis. Cette union sacrée que le peuple togolais est en train de vivre, que nous avons vécu dans les années 56-58.
Oui.
56-58, c'est ce qui nous a amené à ce que moi j'appelle des élections législatives, référendum, sous l'égide des Nations Unies, qui vont nous mener à la proclamation de l'indépendance 2 ans plus tard, en 1960. Il faut cette union patriotique sacrée, et il faut que le leadership soit homogène, n'est-ce pas ? Pas multipolaire.
C'est ça.
Si c'est multipolaire, nous sommes foutus. Il faut que soit.
Est-ce qu'il est possible d'avoir aujourd'hui au Togo un leadership homogène? Est-ce qu'il faut même le souhaiter?
Monsieur Laloupo, De Gaulle a dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Oui.
Il faut qu'ils se donnent cette volonté. Oui. Si ils sont préoccupés par la libération de leur pays, de leur peuple, et non par de petites ambitions personnelles, égocentriques, etc.
Il y avait quand même des leaders dans cette histoire, hein, parce que bon, la crise togolaise, maintenant se compte, enfin, s'étale sur des décennies. Hein, et il y a eu des leaders quand même qui n'ont pas tenu les promesses de l'histoire, si je puis dire, Karl Gabba. Je pense notamment à Gilchrist Olympio, qui était le leader emblématique, évidemment, qui incarnait le changement possible au Togo pendant plusieurs années et qui s'est retrouvé finalement un pâle collaborateur du régime.
Oui. Je laisserai l'histoire juger de la trajectoire ou de la nouvelle trajectoire de Gilchrist Olympio, qui à la date d'aujourd'hui est entouré de thuriféraires qui l'empêchent de parler au peuple et de dire la vérité au peuple. C'est que le peuple.
Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ne le connaissent pas, il faut bien le dire.
Ceux qui ont 20 ans ne le connaissent pas, mais je vous dis que Gilchrist Olympio est entouré de thuriféraires qui sont en train de le mener à la ruine. Mmh. Parce qu'effectivement, il a été un grand combattant, mais à la date d'aujourd'hui, on l'a sorti de cette ligne de combat qui était là où je vais reprendre le grand frère Tété Godwin. Mmh. Il y a eu une confusion dans la perception politique du Togo. Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une lutte qui est une lutte de libération. Le Togo a connu la colonisation allemande, française, et là, on a une colonisation qui est une colonisation endogène. Mais cette colonisation endogène s'appuie effectivement sur une armée tribale et elle dure depuis plus de 50 ans. Mais certains des opposants ont cru effectivement qu'une dictature peut être démocratisée. Et donc, ils ont joué le jeu de tous les aspects qu'apporte la démocratie par des élections, par des négociations. Et à la date d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils se sont fourvoyés. Mmh. On est dans une lutte de libération. Et cette lutte de libération.
Cette lutte et que répondez-vous à Mathias Groupé quand il dit il faut garder toutes les options disponibles sur la table?
Mais les options disponibles, oui. IATP à Tchadam nous l'apportent. Oui. Historiquement, ou bon, je suis un opposant originaire de l'histoire du Togo qui est de l'Ablonné.
C'est ça.
Et aujourd'hui, j'ai une autre branche de l'Ablonné qui se réveille à Sokodé, qui se réveille à Sokodé, participer à Tchadam. J'ai écouté ce qu'il dit, qui est qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, qui est la volonté du peuple de vouloir acquérir sa liberté,
c'est ça.
Et en manifestant et en mettant une pression qui va s'intensifier sur ce pouvoir.
Et cela passe par le départ de Faure Gnassingbé avant la fin de son mandat.
Je demande à Faure Gnassingbé de venir dire de quoi il veut négocier avec nous et le peuple lui répond effectivement qu'à la date d'aujourd'hui, vu les crimes qui sont commis, vu la barbarie qu'on est en train de vivre depuis un mois avec les assassinats qui sont commis par des pauvres petits militaires qui sont envoyés vraiment à la boucherie pour essayer de calmer, de maintenir ce régime, nous demandons à Faure Gnassingbé de venir nous dire de quoi il veut négocier. Mmh. Référendum, on en a déjà. S'il veut, je lui envoie une copie. Et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut négocier?
Mathias Mpoué, vous nous entendez?
Oui.
Vous avez entendu la réponse
de nos... Oui, j'ai entendu.
Voilà.
Non seulement qu'est-ce qu'il veut négocier...
Voilà. On va écouter Mathias Mpoué. Attendez.
Oui, je voulais dire que je suis complètement d'accord sur un point.
Oui.
C'est celui qui consiste à demander que le président Faure sorte enfin pour parler au peuple togolais. Et son silence, de mon point de vue, ne peut qu'envenimer la situation. Même s'il n'est pas en mesure de dire aujourd'hui ce sur quoi il veut négocier, il doit sortir et montrer que tout ce qui se passe depuis un mois, il entend et qu'il va en tirer des conséquences. Il ne peut pas rester silencieux comme il en a l'habitude parce que la situation est une situation particulière. Donc, de ce point de vue, je suis complètement d'accord. Et je suis complètement d'accord aussi avec M. Titi quand il dit... C'est à Faure et à Unir de dire, connaissant déjà les points de revendication, je dirais, de l'opposition, les points de revendication des populations qui sortent en masse, ils doivent sortir et mettre sur la table ce sur quoi, ce autour de quoi ils veulent discuter. Et maintenant, les conditions dans lesquelles ils veulent discuter, les mesures qu'ils veulent mettre en place pour ajouter du crédit aux promesses qui sortiront, n'est-ce pas, d'éventuelles discussions ou dialogues qui auraient lieu. Mais de mon point de vue, à moins de vouloir aller à un bras de fer et que celui qui a la force physique la plus irrépressible l'emporte, je crois qu'on n'a pas le choix que de s'asseoir et de s'entendre. Mais je le dis bien, avec des éléments qui garantissent la crédibilité, n'est-ce pas, des points de consensus qui seraient trouvés et des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Et ceci d'autant plus que, une fois encore, on a déjà dialogué par le passé sans que les points d'accord soient mis en œuvre par la suite. Et donc, ça a échaudé, créant l'eau froide. Je peux comprendre qu'on ne soit pas aisément disposé à aller s'asseoir à nouveau. Mais, de mon point de vue, à moins de vouloir aller à l'affrontement physique, la meilleure façon, c'est de s'asseoir et de s'entendre et de mettre en place des éléments qui garantissent la crédibilité des accords qui sortiraient des discussions.
Comme l'UNTT, manifestement, est d'accord avec vous. Hein.
Absolument.
Vous approuviez ce que disait Mathias Mpoué à l'instant.
Oui, qu'on nous dise ce qu'on veut discuter et comment. Parce que, souvent...
Mais manifestement, Faure Gnassingbé ne fait plus partie de la solution, si je puis dire. Faure Gnassingbé n'est plus partie, il ne fait plus partie de la solution.
Non.
Le peuple a décidé.
Non. Le peuple est souverain, le peuple dit... Le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est que ni son père, ni lui-même n'ont jamais été légitimes et légaux. Ils n'ont jamais été. C'est toujours par la fraude ou la force physique. La fameuse conférence nationale souveraine avait mis à terre le régime de Yadema. Le 3 décembre 1991, J'étais à Lomé quand il a pris son armada
pour
aller attaquer la primature.
C'est ça, tout à fait.
Et de par là, il a repris de fait, de facto, tout son pouvoir. Puisque nous, opposants, nous n'avions pas, nous n'étions pas armés. Voilà le fond de la question.
25 ans sont passés depuis.
Mais bien sûr.
Bien sûr. Karl Gaba, un mot avant la pub.
Oui, c'est tout à l'heure, je voudrais que dans les solutions dont vous êtes en train de parler, nous organisons une marche le 7 octobre à Paris avec toute la diaspora togolaise qui est en Europe. Et cette marche est un message qu'on veut adresser au président Emmanuel Macron. Il faut qu'il se tienne debout et marche pour la liberté du Togo. Son silence est suspicieux.
Pourquoi vous convoquez Emmanuel Macron dans cette affaire ?
Je convoque Emmanuel Macron dans cette affaire parce que jusqu'à dernière ordre, le Togo est encore sous tutelle de la France. On peut en discuter largement.
Vous assumez la mise...
J'assume le constat
oui.
que la France-Afrique est encore quelque chose qui perdure en Afrique.
Mais ce sont des choix qui sont faits par le régime en place au Togo. Pas forcément le choix des Togolais.
Oui, c'est pas le choix des Togolais. Oui. Et que j'invite le président Macron qui, pour la France, s'est mis debout pour faire marcher la France et a promis qu'effectivement les rapports avec l'Afrique vont changer, je lui demande de se mettre en marche pour le Togo parce que le silence de la France actuellement, elle est coupable.
Mais c'est pas à vous justement, manifestants, militants, de changer la donne justement en vous libérant de cette tutelle sans passer, je dirais, par les acteurs qui l'imposent aujourd'hui au Togo.
Le message qu'on a fait passer au Quai d'Orsay à M. Le Drian la dernière fois, c'est de lui demander de laisser les Togolais régler notre propre problème.
D'accord.
De nous laisser effectivement destituer et mettre fin à cette monarchie dictatoriale.
Sans s'immiscer dans l'affaire.
Mais par contre, là actuellement, il y a des manœuvres qui sont des propositions de dialogue, des propositions de référendum et que Debache, qui est un Français, un constitutionnaliste français, est encore à la manœuvre. Et donc vous comprenez très bien que je m'adresse là aux Français. Ça veut dire que. Au Togo, on est encore sous la coupe de manœuvres de comment on appelle ça, des mercenaires blancs qui veulent faire perdurer ce système-là.
Donc vous dites aux Français, surtout, ne vous en mêlez pas.
Ne vous en mêlez pas et le moment viendra où, effectivement, on va vous demander de vous en mêler parce que le régime togolais, ce sont des anciens combattants de l'armée coloniale qui ont été imposés au Togo par le biais d'un coup d'État qu'a réalisé le père
la
de Faure Gnassingbé en assassinant
Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Une situation pré-insurrectionnelle au Togo. Nous en parlons avec nos invités. Godwin Tété, historien, membre de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. Karl Gaba, fondateur du site letogolais.com, membre de Synergie Togo et fondateur de Togo Debout, une plateforme de l'opposition, une plateforme de contestation. Et au téléphone avec nous depuis Dakar, Mathias Rompé, politologue, administrateur de Osiwa. Mathias Rompé, c'est à vous que j'allais poser cette question. On le sait, la présidence en exercice de la CDAO est actuellement assurée par le président togolais Faure Gnassingbé, justement. Alors, dans une telle situation, que peuvent attendre les Togolais de la CDAO en termes de médiation ?
Non, disons que la CDAO peut toujours aider, d'abord pour la simple raison que ces dernières années, si vous avez fait attention, elle n'allait plus seule au devant des situations difficiles qu'on a connues. Elle allait conjointement avec l'Union africaine et l'UNOAS,
c'est
le bureau, n'est-ce pas, ouest-africain des Nations Unies. Et donc, en général, c'est dans une mission conjointe qu'ils sont allés sur tous les théâtres qu'on a de crise que nous avons connues dans la sous-région ces dernières années. La deuxième, mais l'élément principal qui rend la tâche difficile à la CDAO, c'est justement que l'opposition et les manifestants demandent l'interruption d'un président élu dont le mandat n'est pas arrivé à terme. Si vous vous rappelez, la CDAO a connu la même difficulté dans la situation du Burkina Faso, qui ressemble un peu à la situation du Togo aujourd'hui. Alors que si vous comparez à la situation au Mali, par exemple, ou à la situation en Gambie, on a vu une CDAO sortir très ferme sur les principes, n'est-ce pas ? Et voilà, exactement. Et donc, je pense que c'est très difficile pour la CDAO, toutes les fois où il faut interrompre le mandat d'un président en exercice.
L'équation est difficile.
Moi, je suis... Voilà, l'équation est très difficile à résoudre, et je comprends un peu. Mais ce qui est sûr, la CDAO garde toujours des cartes en main parce que justement elle peut s'associer avec les autres organisations de la sous-région et avec l'Union africaine pour venir se donner les moyens de faire asseoir, n'est-ce pas, les protagonistes togolais pour leur permettre d'échanger et de trouver des voies de sortie qui rassurent tout le monde et qui crédibilisent, n'est-ce pas, les accords ou du moins les conditions de mise en œuvre des accords qui seraient obtenus.
Si jamais il y avait des accords, bien sûr.
Si jamais il y avait des accords.
Bien sûr. Je précise aux auditeurs que nous avons donc invité dans ce grand débat Christophe Tchao, député de la majorité présidentielle au Togo, président du groupe parlementaire UNIR, Union pour la République, c'est le parti présidentiel au Togo, et qu'il avait accepté cette invitation, qui a été donc arrêtée depuis une semaine déjà, confirmée même ce week-end, et depuis tout à l'heure, il nous avait indiqué qu'il serait présent un peu plus tard dans l'émission, une demi-heure après le début de l'émission, et là, ces deux numéros de téléphone sonnent occupés, curieusement, voilà, il y en a un sur deux qui sonne, mais M. Tchao ne décroche pas, alors je tenais quand même à le préciser, parce qu'il faut bien indiquer aux auditeurs que nous ne faisons pas, une sorte de plateforme de l'opposition comme ça dans cette émission, d'autant qu'évidemment, Mathias Roupé est plutôt un observateur extérieur, mais il aurait été utile d'avoir les réponses, en tout cas la parole de Christophe Tchao dans cette émission, d'autant que j'avais plusieurs questions à lui poser. Ces questions vont rester en plan, si je puis dire, pardonnez-moi évidemment ce terme un peu trivial. Et on va encore essayer de le joindre, parce que, on l'a eu déjà dans le débat BBC Africa numéro 1 il y a quelques jours, et il portait fortement d'ailleurs la parole du pouvoir. Bon, voilà, cela est dit, il fallait préciser tout cela. Godwin Tété, alors quand on demande le départ d'un chef d'État, ça veut dire qu'on pense à une forme de transition.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui l'opposition a les outils nécessaires pour pouvoir déjà dessiner une forme de transition au Togo ?
Oui, nous en avons, d'autant plus que non seulement au niveau des partis politiques de l'opposition, les vrais, et au niveau de la société civile.
Parce qu'il y a des faux. Oui.
Si je prends par exemple le GRAD, eux, il y a déjà longtemps qu'ils ont toujours prôné une espèce de comment on appelle l'institution qui élabore une constituante.
C'est ça.
Bon, la seule question, c'est que dans le contexte qui a prévalu jusqu'à ces derniers jours, comment mettre en place cette constituante pour qu'elle soit valable, c'est-à-dire pour qu'elle donne naissance à une véritable transition.
C'est ça.
Quand on leur posait la question, j'avoue que jusque-là, on n'avait pas de... L'idée en elle-même est bonne. Avoir une constitution, c'est comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu à la France de mettre sur pied, avec De Gaulle, une constituante qui a élaboré la constitution de la Ve République. Mais dans des conditions que nous connaissons, dans les conditions qui prévalaient au Togo jusqu'à ces derniers jours, comment pouvait-on mettre sur pied une telle constituante sans qu'elle ne soit encore... n'est-ce pas, une fabrication, n'est-ce pas, émanence, n'est-ce pas, du régime en place. Mais je pense que avec le contexte d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut facilement imaginer un mécanisme Et puis il y a des exemples, le Burkina, les conditions ne sont peut-être pas strictement...
L'histoire n'est pas la même non plus.
Oui, mais il y a quand même...
Et puis on ne passe pas quand même d'un régime de 50 ans, sa culture, avec son imprégnation, évidemment, je dirais, à une situation ordinaire comme
ça. Mais, encore une fois, comme l'a dit De Gaulle, là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Oui.
Lorsque l'homme veut, l'homme peut. C'est seulement quand on ne veut pas, on ne sait pas où on va. Mais devant la situation, une situation donnée, on peut toujours résoudre ce problème.
Bien sûr.
Cette question ou ce questionnement ne peut pas nous empêcher de réclamer, n'est-ce pas, la fin d'un tel régime qui nous en a fait voir vraiment de toutes les couleurs.
Alors, voilà. Il y a un paramètre que vous n'avez pas évoqué, Godwin Tété, mais je suis persuadé que vous y pensiez, c'est la question de l'armée, évidemment, parce que cette armée a été une armée sur mesure aussi pour ce régime depuis 5 décennies. On sait que l'armée a toujours tenu une place centrale dans la vie politique de votre pays. Vous nous direz, après la pause de 19h, si cette armée, s'il y a des évolutions, des mutations au sein de cette armée, si au fond, elle a le même profil qu'il y a 25 ans ou 30 ans, et qu'est-ce qu'il est possible pour l'opposition de négocier avec cette armée pour que cette armée soit, comment dire, puisse assumer un rôle d'accompagnement de ce qui pourrait être présenté peut-être dans les prochains jours comme un changement au Togo, dans le meilleur des cas en tout cas. En tout cas, la question se pose toujours de savoir si l'alternance au sommet de l'État est devenue inéluctable au Togo aujourd'hui, si les conditions sont réunies évidemment, pour une transition pacifique. Surtout pacifique d'ailleurs, oui. C'est la question à laquelle nous répondrons après 19h, après le flash info de 19h qui sera présenté bien sûr par notre confrère Salah Eddine Gakou. A tout à l'heure, à tout de suite.
Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Situation pré-insurrectionnelle au Togo, pour en parler avec nous depuis Dakar, au téléphone Mathias Roupet, politologue, administrateur de Osiwa. Karl Gaba est avec nous, fondateur du site letogolais.com, membre de Synergie Togo, organisation de la société civile. Il est le fondateur de Togo Debout, une plateforme contestataire pour le Togo. Godwin Tété est avec nous, historien, membre de l'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement, ancien fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'ONU, ancien membre du Haut Conseil de la République togolaise. Dernier ouvrage paru en septembre 2017, cette année donc, le mois dernier. Ça s'appelle « Quelques pans cruciaux de l'histoire contemporaine du Togo » aux éditions L'Harmattan. J'allais citer justement un extrait d'un texte que vous avez publié récemment à Godwin Tété, intitulé « Un autre dialogue inter-togolais serait sûrement une autre tromperie du peuple togolais ». Vous y indiquez que, je vous cite, « De toutes les façons, le régime en place traîne tellement les pieds que l'on n'arrive jamais à exécuter les conclusions des négociations, si conclusions il y a, surtout si les éventuelles conclusions s'avèrent en faveur du peuple. Tous ceux qui prétendent nous prêcher un énième dialogue inter-togolais nous prêchent purement et simplement la voie d'une énième tromperie du vaillant peuple togolais. » Fin de citation. On le disait, évidemment, Mathias Roupet disait, toutes les options sont encore possibles. Mais quand on lit cela, évidemment, on a du mal encore à imaginer les partis en conflit aujourd'hui s'asseoir autour d'une table pour répéter une énième fois, comme vous le dites, un rituel de dialogue. J'ai envie de vous demander finalement, comment pourrait évoluer la situation au Togo dans les prochains jours, Karl Gaba?
Dans les prochains jours, déjà à court terme, c'est-à-dire que le 4 et le 5...
Il y a des manifestations.
Et excusez-moi, j'en appelle à tous les Togolais que c'est à eux de démontrer encore une nouvelle fois à la dictature de Fonia Singbe que nous ne voulons pas de ce système.
Au-delà des manifestations, comment pourrait évoluer la situation? On va aller vite, parce qu'il nous reste très peu de temps.
La situation peut évoluer très rapidement. Il suffit simplement que Fonia Singbe accède à la demande du peuple, qui est le rétablissement de la constitution de 1992, d'accorder le droit de vote à la diaspora, et à partir de là, le Togo nouveau va renaître sur de nouvelles bases.
Vous n'avez pas annoncé son départ, là, dans ce que vous avez cité comme revendication.
Est implicite.
Ah bon?
Ah oui.
Bon. 11 ans. Une fois que la constitution de 92 est rétablie,
11 ans.
Fonia Singbe donc partirait mécaniquement.
Il n'a pas d'autre porte de sortie quand on met 11 ans pour ne pas respecter un accord qui a été signé. Donc on perd la confiance de son peuple. Et quand on a perdu la confiance de son peuple, la seule solution qui reste, c'est de démissionner. Fonia Singbe n'a qu'à simplement et purement démissionner. Et à partir de là, la transition que rêvent les Togolais va se mettre en place. Il y a les Togolais qui sont prêts, les ressources sont prêtes. Prête à la date d'aujourd'hui pour effectivement construire ce Togo nouveau, rétablir l'état de droit, reconstruire une économie, mettre en place des règles de jeu électorales, vraiment s'appuyer sur la constitution pour organiser dans les 2 ou 3 ans à venir une élection qui sera libre et transparente, et ça permettra effectivement à toutes les ambitions togolaises de pouvoir s'exprimer à travers ces élections.
Je crois que Mathias Roupet nous a quittés. J'ai entendu le téléphone qui se... Enfin, raccroché en tout cas. J'ai entendu un bip-bip. Godwin Tété, alors, Quels sont alors on parlait de l'armée tout à l'heure, vous n'avez pas évoqué l'armée, de l'armée.
Oui, oui.
De l'armée. Comment résoudre l'équation de l'armée qui a toujours pesé, hein, qui était toujours, je veux dire, un poids dans la vie politique togolaise, qui a été une, voilà, qui a quand même souvent contrarié les actions de l'opposition.
Oui, la manière la plus définitive, c'est la fin de la dynastie des Yansimbé.
Oui.
Puisque cette armée n'est qu'une fabrication prétorienne, hein, de cette dynastie pour se protéger, et Adama a fabriqué cette armée pour se protéger et protéger son régime. Au fond, c'est ça. C'est une institution clanique. Elle n'a rien de républicain. Nous avions dénoncé cela déjà au cours de la conférence nationale souveraine.
Oui.
C'est-à-dire dans les années 80.
Oui, mais ça a continué à peser.
Oui, ça continue.
Est-ce que ça a changé? Est-ce que cette armée, est-ce qu'il y a des mutations internes? Parce que ceux qui étaient, comment dire, à la tête de cette armée il y a 25 ans, évidemment, n'y sont plus aujourd'hui. Est-ce que, je veux dire, il y a eu aussi au sein de l'armée des mutations sociologiques comme celles qu'on observe aujourd'hui sur la scène politique togolaise, où on voit des gens des quatre coins du pays, si je puis dire, hein, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, manifester dans la rue Karl Gabin.
L'armée prétorienne n'a pas changé, mais le corps a changé, parce que l'armée est composée, effectivement, d'une population à 90% qui est ciblée autour du nord du Togo. Mais on voit beaucoup de dissensions actuellement dans l'armée. Oui. Beaucoup de militaires de haut gradés sont en exil, je ne veux pas les citer. Oui. Et ils sont aujourd'hui beaucoup investis dans la lutte qu'on est en train de mener, en demandant à leurs frères de déposer les armes, de ne pas tirer contre la population.
Oui. Vous avez les preuves de ce que vous dites là?
Oui, absolument.
Oui, oui. Oui.
Mais on a des militaires qui sont... Enfin, je ne veux pas les citer parce qu'ils ne m'ont pas autorisé.
Non, ne citez pas les noms, en tout cas. Je veux dire.
Mais à la date d'aujourd'hui, oui, il y a tout un pan de l'armée, d'officiers de l'armée qui font appel à leurs frères de déposer les armes. Et si mon frère Olivier Hama, je peux le dire, le commandant Olivier Hama, hein, que je connais très bien, appelle tous les jours ses anciens compagnons ou ses anciens amis militaires de déposer les armes, de se retourner contre ce système, parce qu'il en va de leur intérêt. Parce que leur intérêt, c'est de défendre le peuple togolais. Une armée n'est pas faite pour martyriser son peuple. Une armée n'est pas faite de soumettre son peuple à la barbarie.
On va écouter comme il était.
Oui, oui. Non, le problème est que nos frères et sœurs des forces armées chez nous, c'est pour eux une question de vie aussi. C'est ça qui leur permet de vivre. Donc... abandonner leur corps de manière fracassante, ça leur est difficile. Mais j'étais à Lomé le 28 février dernier, lorsque la population de Lomé s'est soulevée spontanément suite à l'augmentation, à des augmentations successives du coût des produits pétroliers. Mais quand les chefs ont ordonné pour tirer sur la foule, nous savons que parmi les militaires et les gendarmes et consorts, il y en a qui ont dit non. La preuve, c'est qu'ils se sont retrouvés emprisonnés. Vous voyez ? Donc, là aussi, les choses commencent à changer quelque peu. Ce n'est pas encore l'idéal.
C'est ça.
Et là aussi, nous autres, les combattants de la liberté, et j'ai noté un certain point, nous devions tenter une certaine conversion. Il faut s'y prendre avec beaucoup de tact, beaucoup de... c'est difficile, mais encore une fois, qui n'ose rien n'a rien. Nous aurions dû depuis longtemps réfléchir à ça. Quelles pourraient être les voies et les moyens pour influencer quelque peu, c'est tout au moins les dirigeants, vous voyez, c'est ça. Fort ne compte que sur ça. Il y a pas longtemps, j'étais encore à Lomé, il est allé à Temeja. Vous savez qu'à Temeja il y a un grand camp militaire. Vous savez le langage qu'il leur a dit? Je vous connais et vous me connaissez. Je sais que je peux compter sur vous. Quand on s'adresse, un chef d'État s'adresse à une armée et dit à cette armée, je sais que je peux compter sur vous. Compter sur pour quoi faire.
Très bien. Maintenant, si vous plaît.
C'est ça.
Alors, il y a deux scénarios aujourd'hui, hein, qui se regardent, si je puis dire, en chaîne de faïence. Hein. Le scénario de l'opposition, qui parle déjà d'une transition et en dessine les contours. Et puis, le pouvoir en face, d'abord, qui accuse l'opposition de violence non constatée, en tout cas, je veux dire, voilà, en tout cas, c'est le discours officiel du pouvoir. Et ce pouvoir qui met en place déjà, tous les éléments concourant à l'organisation d'un référendum d'ici la fin de l'année, dit-on. Référendum donc qui devrait donc confirmer une modification de la Constitution. Est-ce que vous croyez que ce référendum est encore possible aujourd'hui au Togo?
Non, pour moi, le référendum est malvenu parce que, comme je disais tout à l'heure, on arrive simplement à l'étape d'amendement de la Constitution quand on a déjà un consensus politique. Si vous n'avez pas de consensus politique, vous allez à l'amendement de la Constitution, cette mesure sera unilatérale et ne sera pas une solution à la crise. Donc, de mon point de vue, même l'introduction du texte au Parlement ne devrait pas, devrait être postérieure à une discussion et à la réalisation d'un accord politique. Sinon, c'est une mesure unilatérale et le boycott par l'opposition à l'Assemblée le montre de façon claire. Donc, pour moi, ce référendum, même si le gouvernement était en mesure de l'organiser malgré les protestations, ne résoudrait aucun problème. Mais ceci dit, je pense que le président Faure, je le reviens là-dessus, a une partie de la solution du problème entre ses mains. Moi, je crois que quels que soient les débats autour de l'amendement de la Constitution, des débats juridiques, de comment est-ce qu'il faut aller à l'amendement, est-ce qu'il faut une constituante et tout, au-delà de tous ces débats, le président Faure, qui doit mettre au-dessus de toute autre considération la recherche de la paix et de la stabilité au Togo, peut sortir aujourd'hui et dire de lui-même que, quelles que soient les issues des discussions, des négociations, moi, après avoir fait deux mandats, et étant dans mon troisième mandat, il peut décider de dire, par exemple, qu'en 2020, j'en arrête là, j'en aurais fait suffisamment pour mon pays et je laisse le Togo continuer. Par exemple, il peut sortir lui-même et dire, et ça ne dépend de personne, ni des résultats de négociation, ni de rien, ça ne dépend que de lui tout seul. Pour réduire la tension au Togo, le président Faure peut sortir par lui-même et s'exprimer au Togolais, par exemple.
Merci Mathias, merci beaucoup. Restez quand même jusqu'à la fin de l'émission, vous allez écouter Godwin Tété et Karl Gabba. Vous voulez intervenir rapidement? On passe aux conclusions cette fois. Allez-y, conclusion
chez nous, on dit que si le dimanche doit être bon, on commence à le voir le samedi. Des fois même déjà vendredi, on commence à le sentir. J'avais un frère aîné du même père qui n'est plus de ce monde, qui m'a dit un jour: Godwin, tu sais, quand un meilleur succulent, on le mange deux fois. Mais ce que le grand frère n'a pas dit, c'est que quand tu as mangé deux fois, ça devient déjà une drogue pour toi. Tu ne peux plus t'en défaire. Ou à moins qu'on t'aide. Ce que vient de dire le frère est tout à fait rationnel. C'est clair. Mais psychologiquement, ce petit ratelier qui a pris goût au pouvoir, s'il était capable de faire ça, on l'aurait déjà senti.
Hein? Donc vous ne croyez pas?
Il a signé un accord il y a 11 ans. Oui. Et nous avons oublié autre chose. Les travaux de la CVJR sont venus corroborer ce que l'accord dit. Mais rien n'est réalisé. Donc, nous croyons que le seul moyen de dégager ce chose, c'est ce que le peuple togolais a compris finalement et qu'il est en train de le faire.
Ça s'appelle l'affrontement quand même, Karl Gabba.
Oui.
Ça s'appelle l'affrontement.
Oui,
la confrontation.
La confrontation.
Oui, c'est une forme de confrontation puisque en face, le pouvoir résiste.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En 1998, je vais faire appel à
ta
mémoire, Godwin. Jacques Chirac a fait tenir une promesse au général dictateur Nyasimbe Yadema, qui est le père de Faure Nyasimbe, qui a régenté le Togo pendant au moins 38 ans. Il lui a fait promettre de
n'allait plus se représenter.
Qu'il n'allait jamais se représenter et il a ajouté parole de militaire.
On s'en souvient.
Et il n'a jamais respecté sa parole. Et je ne crois pas que son fils respectera sa parole. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il n'a qu'à respecter le peuple togolais. Nous avons souffert 50 ans.
C'est la fin de l'émission, bientôt.
Il a dit, le jour où les militaires l'ont... Il a dit que son papa lui a dit que quand un pouvoir vous tombe entre les mains, on ne le laisse pas tomber.
Oui, oui. On connaît cette phrase aussi. Mathias Roupet, c'est à vous de conclure, c'est vous qui êtes au téléphone. Alors voilà, une conclusion peut-être plus générale, rapidement, en une minute. Le Togo est niché entre le Bénin et le Ghana, deux pays où le train de la démocratie arrive plutôt à l'heure. Aujourd'hui, le Togo est considéré comme le seul pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest à ne pas accuser un lourd déficit démocratique. Est-ce que vous croyez que la normalisation du Togo dans cette région de l'Afrique passerait nécessairement, forcément, ou je dirais fatalement, je dirais même par une confrontation encore plus importante dans les prochaines semaines entre pouvoir et opposition.
Non, j'espère que la situation pourra se résoudre sans qu'on ne soit obligé de passer par une confrontation avec les conséquences que tout le monde peut s'imaginer. Mmh. Et la situation peut se résoudre soit parce qu'on trouverait un moyen de s'entendre pacifiquement, ou alors le président Faure déciderait, n'est-ce pas, de prendre les initiatives qu'il faut. Et je dis bien, c'est lui qui a une bonne partie des clés de la situation actuelle.
Mais manifestement, nos invités ici ne croient pas, je dirais, à cette démarche raisonnable, si je puis dire.
Je peux comprendre, parce que franchement, l'histoire ne plaît pas en sa faveur, mais je pense que vous ne pouvez pas non plus exclure complètement l'éventualité qu'il puisse, de façon crédible, décider d'aider à sortir le Togo de la crise sans effusion de sang.
Et c'est vrai qu'en politique, on a parfois des surprises.
Voilà, c'est ça.
Y compris des surprises agréables.
Agréables, voilà.
Merci beaucoup, Mathias Ompé. Merci et bonne fin de journée à Dakar. Bien. Vous êtes politologue, administrateur de Osiwa. Merci infiniment. Encore 30 secondes, Kalgaba.
Oui, la décision est entre les mains du peuple togolais qui doit se mobiliser fortement pour résister à cette dictature. Le 4 et le 5 à Lomé et sur tout le territoire national, sortez nombreux pour dire à Faure Gnassingbé non, 50 ans, ça suffit. Et à Paris, le 7 octobre, toute la diaspora est réunie pour mettre la pression sur Macron pour qu'il marche, pour que le Togo se libère.
Oui, il faut peut-être inviter le Togolais parce que Macron, on pourrait s'en passer. C'est pas l'affaire de Macron, c'est l'affaire des Togolais. Merci beaucoup. Alors, on me signale que monsieur Christophe Tchao, président du groupe parlementaire Unir, mouvement, donc parti présidentiel au Togo, vient de nous appeler au téléphone. Pourtant, il savait que l'émission se terminait à 19h20. Bon, c'est un peu embêtant. C'est pas élastique, une émission de radio, surtout en direct. Godwin Tété, merci d'être venu. Merci Karl Gaba.
Merci,
je rappelle rapidement le titre de votre dernier ouvrage, Godwin Tété, quelques pans cruciaux de l'histoire contemporaine du Togo, aux éditions L'Harmattan.
Il y en a d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs.
Qui est sorti en même temps que cela.
Ah, mais j'invite.
Les peuples africains.
Oui.
N'est-ce pas? Prenons notre destin en main.
Eh bien voilà, c'est dit. C'est aux éditions L'Harmattan également.
Oui, également.
Eh bien écoutez, ils iront sur Internet, ils vont se renseigner, les auditeurs.
Ah, bon, hein.
Rassurez-vous.
Oh, oui.
Bonne soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. À demain.
Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.